Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie. La radio nous empêche de nous rencontrer, même si vous pouvez parfois nous suivre dans des émissions filmées, comme c'est le cas aujourd'hui. Si nous échangeons avec certains d'entre vous, il nous arrive néanmoins de nous rencontrer aussi. C'est le cas avec Raymond Magnan, qui fut tout d'abord un fidèle auditeur, qui ensuite eut la délicatesse de m'envoyer ses écrits que nous avons présentés lors de quelques émissions ces dernières années.
Exact.
La plus récente fut celle sur Mauriac, que notre invité d'aujourd'hui avait eu l'honneur de rencontrer. Bonjour Raymond.
Bonjour France.
Merci beaucoup de votre présence.
Merci de m'accueillir dans votre belle émission, chère France.
Merci. Nous sommes heureux de vous accueillir et je vous remercie pour ce manuscrit de Marie-Noël que vous m'avez gentiment envoyé. Impossible de ne pas faire d'émission sur la plus grande poétesse française, ainsi qu'Henri de Monterland et Raymond Escolier la qualifient. Alors vous êtes un auteur prolifique. Et depuis votre retraite, vous ne vivez plus que pour écrire.
Oui, en quelque sorte. Je suis assez prolifique, oui.
Oui. Je perçois au fil de nos conversations que vous vous immergez dans le silence des mots pour en extraire la beauté pure et ciseler des textes qui émeuvent l'âme. Vous nous en faites profiter. J'ai appris au détour d'une conversation que vous tapiez encore à la machine, même pas la machine électrique.
Mais oui.
Et que vous recherchiez des rubans.
Voilà, des rubans, exactement. Pour une machine tout à fait archaïque, on peut dire. Hein. Mais qui m'apporte comme une sorte de réécriture, en quelque sorte.
Ah oui.
Taper à la machine, c'est réécrire le texte et le renouveler, en trouver encore un autre sens.
Mais donc vous écrivez directement à la machine, vous ne passez pas par la plume.
Je passe par la plume.
Ah oui.
Je passe par la plume, tout est écrit, et ensuite je passe à la machine avec beaucoup de corrections.
Oui.
Et voilà. Et ensuite, nous le saisissons.
Oui.
Voilà, et avec de multiples corrections. Oui.
Alors aujourd'hui, nous allons redécouvrir, ou pour certains peut-être découvrir, qui fut Marie-Noël. Notons qu'elle est l'une des rares femmes à avoir reçu le Grand Prix de poésie de l'Académie française en 1962.
C'est ça.
Alors, avant d'aborder votre ouvrage, peut-on dire que sa poésie est un cri de veille qui refuse le confort d'une foi facile ou d'une pensée toute faite?
Mais tout à fait. On peut dire, on peut comprendre cri de veille.
Oui.
Par une mémoire qui se consume,
oui.
Comme une douceur dans la meurtrissure, ce chant qui s'ébauche, qui ne vient que de la fragile lumière du sommeil des choses, du silence de l'âme. Alors il faut dire que Marie-Noël n'est pas de celles qui ont besoin de se retirer du monde pour s'élancer vers Dieu.
Oui.
Non seulement la nature ne la sépare pas de Dieu, mais elle est un chemin vers lui. Elle est une sorte d'issue, c'est-à-dire le chemin de la vie.
Oui.
Et le chemin est la vie. En vérité, elle ne sait pas très bien si c'est le monde qui lui a révélé Dieu ou si c'est Dieu qui lui a rendu le monde.
Oui.
Elle dit « Je souffre, c'est beaucoup ma façon de croire ». Voilà.
Alors, j'aimerais que vous répondiez à une question que vous posez dans le livre, mais de façon un peu plus personnelle, s'il vous plaît, et plus générale que par rapport à Marie-Noël.
Mmh.
Une œuvre, un être, pouvons-nous les éprouver autrement que par l'écho qu'ils
voilà.
éveillent en nous?
Voilà. C'est une œuvre. Une œuvre est une mémoire souffrante.
Oui.
Une œuvre est une mémoire souffrante qui cherche des signes, des empreintes. On ne parle jamais que de soi quand on écrit, disait Mauriac.
Oui,
voilà.
Je m'en souviens très
Donc,
bien.
Voilà. Une œuvre sincère ne saurait être condamnable qu'un cri. Voilà.
Oui.
Tout drame inventé reflète un drame qui ne s'invente pas.
Mmh.
Voilà, ça c'est Mauriac.
Oui.
Donc c'est pour dire qu'on écrit avec son sang, avec ses larmes et avec sa joie aussi, éventuellement. Voilà. Donc, c'est un bonheur d'avant le temps.
Oui.
C'est chercher aussi, au-delà du temps, les étés, la brûlure des étés disparus,
ah oui.
le monde incertain des étangs, des bois, des sentiers, où meurent les aubes mouillées. Voilà. Donc la poésie de Marie-Noël donne libre cours à une rêverie autant qu'aux effusions de la sensibilité et de la sensualité aussi.
Oui.
Mêlées. Mmh. Voilà.
Alors, dans votre livre, vous citez Édouard Estonnier.
Oui.
Une petite précision, hein, cet homme était scientifique, polytechnicien.
C'est exact.
Il a inventé le mot télécommunication.
Oui.
J'ai découvert ça.
Et l'auteur des choses voit.
Et voilà. Et ensuite, auteur des choses voit.
Ça, c'est...
Voilà. Il imagine que les murs et les objets gardent la trace, voilà. L'écho dont nous parlions tout à l'heure, des drames humains qui se sont...
Et les lieux.
Et les lieux.
Voilà.
Alors, c'est encore un écho à ce que nous disions précédemment.
Oui, c'est ça. Les lieux sont des personnes à qui l'humanité est en nous et donne une sorte de physionomie, disait Marcel Proust dans Jean sans taille. Donc, Marie-Noël, c'est d'abord Auxerre. Ces méandres de pierre et de fumée, de pluie froide, d'ombres chargées d'heures lentes, d'aube grise, malgré le silence de ces venelles où s'enchevêtrent les maisons à croisillons de bois, on devine par-dessus la murette des jardins des créatures de chair et de songe, où se blessent, où s'interpénètrent les personnages, les souvenirs, les obsessions. Auxerre médiéval aussi, dresse dans le ciel ses tours orgueilleuses, des arches tendues vers l'horizon, c'est là, le front appuyé à la vitre, brouillé de pluie et d'haleine, que guette la petite Marie Rouget.
Alors, cette petite Marie Rouget,
qui est
Marie-Noël,
n'est pas encore Marie-Noël.
Voilà. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Comment est cette fillette? Elle est née dans une famille avec... Présentez-nous un petit peu, Marie-Noël.
Elle est née vers les années 1880, je pense, et donc d'un père philosophe.
Oui, professeur de philosophie.
Professeur de philosophie, très sévère, évidemment.
Évidemment, parce qu'à l'époque, c'était souvent le cas,
C'était souvent le cas, et surtout dans ses familles. Mm. Et puis d'une mère aimante et douce, voilà, et très... Très imaginative aussi, voilà. Elle a trouvé deux pôles qui sont contradictoires. D'une part, le père, d'autre part, la mère. Voilà. Et c'est...
Plutôt ils se complètent, on a l'impression.
Plutôt complémentaires, mais elle a quand même souffert de cette différence parce que son père était trop intransigeant. Voilà. Et il condamnait son imagination, quoi.
Oui.
Il a frustré, en quelque sorte, de son imagination. Donc, c'est pour ça qu'elle éprouva pour son père une timidité apeurée.
Ah oui.
Voilà. Et parce que ce père philosophe lui lisait Aristophane.
Oui. Alors, cuisine.
Dans la cuisine. Voilà. donc, ses refuges, elle les trouve en sa grand-mère maternelle. Sa mère et aussi la servante de la maison. Voilà. Alors celle-ci lui contait des histoires où il y avait des loups, où des oiseaux parlaient aux fées. Alors peut-être que à l'image du Grand Maulne, la poésie naît-elle et se maintient-elle vivace qu'en ceux qui sont trop imprégnés de leur enfance pour en effacer l'empreinte. Voilà. Et c'est cette enfance qu'ils tentent de capter au bout de toute leur humaine aventure. Cette forme de poésie n'interpose entre le regard qui l'effleure ou l'interroge aucun obstacle. Le rôle de toute réalité exprimable est d'offrir le désir de tout ce qui échappe à l'expression. À un certain degré, seule la prière peut la prolonger.
Eh oui.
Voilà. D'où écrire en forme de prière, finalement. Alors, je cite Catherine Manfield dans son journal, qui dit « Il reste à rendre grâce pour tout ce que chacun de nous a reçu et pour tout ce qui peut lui être encore donné, ne fût-ce qu'un jour, un instant, une lueur. » Voilà, c'est Catherine Manfield qui écrit ça dans son journal, qui était aussi traversé par une sorte de transcendance et de poésie aussi.
Oui.
Voilà. La poésie, donc, pour dire que la poésie de Marie Noël est une poésie christique. Voilà. Elle fait de la douleur une part de vie.
Oui.
Quand la souffrance devient l'amour, et plus cruellement, plus tendrement encore, lorsqu'elle est cette initiatrice d'une autre espérance dont la mort n'est que le stigmate trompeur. Marie Noël en fera ses plus pures moissons. Voilà. En ceci, elle ressemble à la Violaine de Claudel. Sa vie ne fut-elle pas également une suite de réponses de plus en plus généreuses aux sollicitations de la grâce, aux appels secrets de la douce piété et de la terrible bonté de Dieu. Voilà. Par ses assentiments, par sa passion, par le rayonnement qui embrase son œuvre poétique, elle s'est laissée conduire et porter par le mystère profond de Dieu, qui a seul le pouvoir de donner sa couleur au monde, de modifier la valeur des choses, et même l'ordre des sentiments.
Mmh.
Voilà. Est-ce à dire que cela, que la rumeur, ça ne veut pas dire. Voilà. Alors nous en revenons maintenant sur un autre chapitre, mais ça ne veut pas dire que l'abîme ne parviendra pas jusqu'à elle.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et qu'elle n'entendra jamais le grand appel panique qui naît d'une âme qui cherche dans la grande nuit où personne ne guide personne. Voilà. Et alors là...
Alors, on va faire une petite pause.
Oui.
Et il y a une petite surprise, donc écoutons.
Ce que j'aime pas, c'est qu'on vienne me chercher à mon silence, à mes affaires, à mes petites histoires de tête et de cœur, et puis qu'on me produise en public, j'aime pas ça du tout. Et si j'avais recommencé mon existence, je chercherais à me cacher encore bien plus que je ne l'ai été. Heureusement pour moi, on s'est aperçu que j'existais, j'avais 75 ans. Le Seigneur a permis qu'à ce moment-là, j'ai encore quelques années à vivre, mais mon œuvre était toujours faite. Si on était venu avant, je n'aurais rien fait. Je ne veux pas dire que j'aurais rien fichu, mais c'est ça que je voudrais dire. Voilà, mais c'est vrai.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, nous avons entendu la voix de Marie Noël.
Oui, quelle émotion.
Oui.
Oui.
Alors, il y a peu de d'archives sur Marie Noël.
Et je suis même surpris que vous ayez su trouver.
Grâce à Lina.
Ah, voilà.
Qui l'avait interviewée. Voilà. C'est assez cocasse, du reste, l'échange qu'elle a avec le journaliste. J'invite les auditeurs à aller retrouver ça. Alors, je sais que vous n'avez pas d'ordinateur, donc
non,
si je vous dis d'aller écouter ça sur Internet, vous aurez...
Vous l'aviez fait pour Mauriac, d'ailleurs.
Oui, absolument. C'est pour ça que je voulais recommencer pour Marie-Noël.
C'est très bien, oui.
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 Une petite précision, elle s'appelle Marie-Noël. Pourquoi a-t-elle choisi Noël comme pseudonyme?
Marie Rouget est devenue Marie Noël.
Oui.
Alors il y a deux choses très importantes. Premièrement, la mort de son frère. Voilà.
Oui, quand elle a 12 ans.
Quand elle a 12 ans. Et ça se passe justement au moment de Noël.
Oui.
Voilà. Et d'autre part, il y a aussi le visage de l'aimé. Parce qu'elle a aimé. C'est toujours resté dans la discrétion la plus complète.
Oui.
Mais elle a aimé quelqu'un, un ami, qui lui était apparu comme un
potentiel mari.
Et puis finalement, elle a connu le déchirement de la séparation.
Mais quel lien avec Noël?
Alors le lien, c'est que en sacrifice mystique.
Oui.
Et en faisant encore allusion à la mort de son frère, elle a choisi ce prénom de Noël.
Ah,
voilà.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Je crois que voilà. Elle a dit d'ailleurs, je fus une jeune fille humaine. Si je n'ai pas connu l'amour, j'en ai connu et je l'ai rêvé.
Oui.
Voilà. Mmh. Hein, vous voyez. Et j'en ai souffert de cœur comme n'importe laquelle de mes semblables du même âge.
Mmh.
Voilà.
Alors, elle écrit « Avoir le secret des choses, c'est les tenir dans sa main comme un oiseau en cage.
Oui. »
Alors, un oiseau est fait pour voler, un secret est fait pour être gardé. Quel paradoxe, cette phrase. Comment faut-il la comprendre?
Mais oui. Alors, c'est, on l'appelait l'alouette, l'alouette de mai.
Bon. Oui.
Alors, évidemment, c'est assez complexe. Hein. Alors, c'est assez complexe parce que...
Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit,
oui.
Mais comment faut-il la comprendre?
Vous savez, l'oiseau, il signe le ciel, il va où il veut... Et finalement, il franchit les limites interdites.
Hein. Oui.
Donc, on ne peut pas vraiment l'emprisonner. Voilà. Alors maintenant, le secret, c'est le secret de son âme. Donc, elle préfère peut-être le laisser s'envoler,
oui.
Le laisser s'évader.
Mmh.
Hein, vous voyez. Voilà. Enfin, je le comprends un peu comme ça.
Hein, oui.
Mais bon. Je pense que l'influence de l'abbé Munier,
oui,
si on peut
dont nous parlerons
l'évoquer,
un petit peu tout à l'heure, oui.
Voilà, sera aussi déterminante, oui.
Alors, nous avions évoqué l'enfance heureuse de Mauriac dans notre précédente émission, Mauriac. Et vous évoquez celle de Marie-Noël dans votre livre. J'y vois un parallèle, car vous dites, et là, dans Petit Jour, que vous avez eu la gentillesse de m'offrir, on comprend que sa poésie n'est pas une invention,
non.
Mais une restitution de ses premières émotions d'enfant.
Oui.
C'est ça,
oui,
hein,
oui, c'est ça. Une restitution de ses premières émotions. Et,
oui.
Parce qu'elle en a conservé toute la tendresse.
Oui.
Toute la miséricordieuse tendresse, oui.
Oui.
Et puis aussi, c'est un appel vers la grâce, quoi. Elle dit, c'est un flocon de douceur. Qui se pose sur l'aujourd'hui.
Mmh.
Voilà. Donc, elle le voit comme ça.
Oui.
Et je pense que ce qu'il évoque vraiment, c'est Vézelay. Ce contact,
voilà.
Ce contact avec Vézelay.
Hein, oui.
Voilà.
Du reste, c'est très beau, ce qui est dit sur Vézelay, ses voûtes.
Voilà. C'est une beauté intérieure. Hein. Ce qu'elle voit est une immémorable mémoire. Elle donne la leçon du chrétien, en réalité, qui, dans la plus haute tension de son être, a su garder un cœur pauvre. Et alors, il y a l'importance aussi des églises. Les églises sont moins de la pierre que du temps cristallisé. Elles ont une histoire, comme l'on a charge d'âme, mais elles sont aussi, la pierre est de la même nature que notre chair. Et ce qu'elle sait, elle n'a jamais eu à l'apprendre.
Oui.
C'est inscrit dans la pierre, c'est inscrit, voilà. Donc, elle rejoint une certaine forme de jansénisme.
Alors, justement, oui,
voilà.
J'avais l'impression.
Si on veut, il évoquait
oui.
le jansénisme de Pascal,
oui.
Le discours sur les passions de l'amour de Pascal. Il est nécessaire que l'homme soit parfois agité des passions dont il sent dans son cœur des sources vives et profondes. Alors là, on peut parler d'influence, parce qu'elle a quand même eu l'influence d'Anna de Noailles, notamment dans Le cœur innombrable, notamment dans Le visage émerveillé. Ensuite, bien sûr, Francis Jammes, Maeterlinck, Le trésor des humbles, voilà. Et puis Eugénie de Guérin. Voilà. Ça, ce sont des. Voilà. Et alors, ensuite, pourquoi elle est dans un lieu. Alors, revenons sur Vézelay. Elle est dans un lieu où chacune des choses de la vie prend sa juste distance. Les routes, les années, le balbutiement sans fin du cœur qui cherche à dire un amour.
Ah oui.
Alors, dans la trame de ce silence se glisse une prière en forme de cri. Et c'est toujours quand elle prie qu'elle sent en elle monter cette grâce et cette tentation, j'allais dire, la tentation de l'irréel du réel, évidemment. L'appel vers Dieu, voilà.
Oui. Je
me soumets, le fiat,
oui.
Je me soumets.
Cet appel vers Dieu, donc on le retrouve dans ses écrits, c'est l'abbé Munier donc
oui,
qu'il lui a
démunie,
dit,
voilà.
Très important dans sa
très,
vie, qu'il lui a
important.
Dit de coucher tout ça par écrit.
Voilà.
On vous dit qu'il était toute miséricorde et affection paternelle.
Voilà.
Une
voilà.
figure paternelle qu'elle n'a pas eue avec son papa.
Voilà. Qui exactement, qui a remplacé un peu son père spirituel.
Oui.
Voilà. Et qui l'a délivré de la contrainte de la religion et surtout de l'effroi de Dieu. Voilà. Il lui a ouvert un accès, mais ça n'a pas empêché que sa religion ait resté quand même un suppliciant bonheur.
Oui.
Voilà.
Les deux mots sont parfaitement
voilà.
choisis.
Un suppliciant bonheur.
Ouais.
C'est un bonheur qui fait souffrir, qui fait mal. Voilà. Alors pourquoi le bonheur fait mal ? Parce qu'il est trop intense, peut-être. Vous voyez ?
Oui.
Et alors l'espérance naît du désir comme l'amour de la nuit. Hein. Elle ne l'éclaire pas, elle ne peut que lui survivre. Voilà. C'est une prière faite à un visage, c'est une voix nue, c'est une louange aussi, au-delà des mots, au-delà de la vie. Voilà. Alors vous m'avez évoqué, je crois, le Dieu en trois personnes.
Oui. Voilà. Alors, il reste peu de temps, parce que j'ai encore une question après.
Mon Dieu,
oui. Oui, le Dieu en trois personnes, voilà. Vous dites que pour elle, il prend des fluctuations dans son esprit, soit le visage du juge, soit celui de l'intercesseur. C'est pour ça que l'un paraissait inconciliable avec l'autre.
Oui.
C'est pour ça que je vous parlais de jansénisme. Est-ce que c'est sa spiritualité ou alors est-ce qu'elle est empreinte de jansénisme ?
Elle est empreinte de jansénisme. Oh. Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Elle est pénétrée même de ça. Hein.
C'était un peu l'époque aussi. Hein.
Oui, oui, oui. C'était l'époque où... Oui, oui, c'était assez courant. Hein.
Oui.
Et elle l'exprime dans jugement. Hein. C'est jugement. Elle s'est donnée au Christ.
Oui.
Hein. Je pense que pour revenir à Mauriac dit c'est la folie du chrétien.
Oui.
On ne possède pas la joie, mais c'est la joie qui nous possède. Voilà.
Oui.
Et la poésie est le pressentiment de la transfiguration, mais seule la religion en est le chemin profond. Voyez, c'est par là que la croix se fait résurrection. Voilà. Et le mystère chrétien, c'est la nuit qui rend évidente la lumière, écrit aussi François Mauriac. Voilà.
Alors, vous terminez votre livre avec le chant de la source.
Ah oui.
On y voit le parallèle de l'eau de la source et l'eau des larmes.
Voilà.
L'eau de la source serait-elle Dieu et les larmes représentant sa vie, sa solitude ? Et si vous avez choisi de terminer votre livre ainsi, c'est que votre mélancolie jaillit comme cette source, votre mélancolie que nous connaissons à travers vos précédents ouvrages, elle jaillit comme cette source qui représente votre solitude et votre être languide,
oui,
peut-être un petit peu.
Et ma blessure.
Et votre blessure,
ma ouais. blessure. Comme l'eau est belle quand on a soif. Mais moi, j'ai soif. J'ai soif aussi de bonheur durable, mais il n'intervient qu'à de très rares moments dans ma vie.
Oui, mais si vous aviez été heureux, est-ce que vous auriez si bien écrit ?
Non, c'est tout à fait vrai, chère France. Je n'aurais peut-être pas écrit tout ce que j'ai pu dire et tout ce que j'ai pu écrire. C'est vrai, hein. Mon Dieu, rendez-moi limpide comme le cristal pour que ta lumière brille à travers toi, disait Catherine Mansfield. Hein. Et puis, je pense que le feu vivant dont se nourrit notre âme consume jusqu'au deuil pour en grandir la flamme. Hein, je pense, chère France.
Oui. Voilà. Merci Raymond pour cette belle émission. Alors, ce livre n'est pas encore édité. Dommage.
Non.
Si on veut lire de la vraie littérature, c'est donc dans Marie-Noël ou Les clairières de l'âme qu'on le trouve. Je l'espère très bientôt en librairie. Je termine avec cette belle phrase. En fait, j'ai eu du mal à en choisir une parce qu'il y en a tellement. Mais je vais laisser nos auditeurs avec cette belle phrase. Une espérance qui naît du désespoir comme l'aurore de la nuit ne l'éclaire pas. Elle ne peut que lui survivre. Il n'y a plus alors qu'une prière pour rendre le silence de Dieu. Bonne semaine, chers auditeurs.
Merci France.
Merci
beaucoup.
Vraiment.